programme. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin. Nathalie Barge avec vous. Nous sommes avec Marie Touré, guinéenne, chercheure et consultante en genre et développement, ancienne directrice nationale de la promotion féminine, directrice du projet Renforcement de l'influence des femmes pour une transition apaisée et inclusive en Guinée du consortium La Guinéenne en politique. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec Le Monde au féminin de VOA Afrique.
Bonjour Nathalie.
Voudriez-vous dans un premier temps nous retracer les points saillants de votre parcours de militante des droits des femmes en Guinée ?
Les injustices et autres violences dont les femmes africaines font l'objet en général ont renforcé ma sensibilité à militer activement pour les droits des femmes. Et c'est dans ce cadre que j'ai eu l'opportunité d'effectuer des recherches qui ont servi d'outils d'appréciation de la situation de la femme au niveau national et international et de formuler des projets appropriés qui ont permis de financer les actions en faveur des femmes dans mon pays. J'ai réalisé des études dans le domaine agricole avec une partenaire à Satoubili et j'ai réalisé une étude sur le rôle de la femme dans le secteur informel. J'ai aussi fait des recherches dans le domaine du genre et l'accès des femmes à la propriété foncière. Comme vous le savez, les femmes sont démunies et elles ne bénéficient pas de terres cultivables comme il le faut. Et donc, je me suis intéressé à cet aspect puisque je sais que l'autonomisation, c'est la pierre angulaire de la promotion de la femme africaine. Au niveau de la politique du gouvernement en matière de promotion des femmes, j'ai, avec mon équipe directionnelle, élaboré la première politique nationale de la femme juste après la conférence mondiale de Beijing et plus tard la politique nationale genre et développement au service du gouvernement pour mieux les orienter à investir dans le domaine des droits des femmes.
Marie Touré, quel progrès enregistrez-vous depuis l'indépendance de la Guinée en matière de promotion de la femme dans l'ensemble ?
Il faut noter d'abord que les femmes ont obtenu le droit de vote en Guinée depuis l'indépendance. Les femmes ont fondé des partis politiques et ont été même candidates aux élections présidentielles. Et donc, de plus en plus de femmes candidates sont en train d'émerger. Il faut noter également qu'au cours de cette même transition, les femmes ont été désignées, seulement les femmes, pour mener des consultations comme facilitatrices aux assises nationales, menées auprès des citoyens et de la société civile pour justement promouvoir la paix et la quiétude sociale. Aujourd'hui, nous avons une femme générale d'armée et elle est gouverneure de la ville de Conakry. Il faut noter aussi une augmentation quand même des femmes dans les postes clés des ministères, des départements et assument de plus en plus les ministères clés tels que l'enseignement supérieur, l'industrie et le commerce, la télécommunication, la coopération et j'en passe. Il y a également de plus en plus d'organisations féminines non gouvernementales actives dans le domaine des droits des femmes. Je veux parler de la FELPAG, des jeunes femmes leaders qui sont beaucoup appréciées au plan national. Donc je pense que ces jeunes femmes ont cultivé une conscientisation et aussi le CNT, le Conseil national de la transition, a une femme comme vice-présidente, ce qui n'est pas souvent arrivé en Guinée.
Vous avez été directrice nationale de la promotion féminine et du genre pendant 10 ans au sein du ministère en charge des femmes. après avoir déjà été adjointe pendant 8 ans, ce qui vous fait une expérience de près de 2 décennies en la matière. Que retenez-vous de cette période? Quelles sont vos principales réalisations d'alors?
Ce que je retiens de ma mission à la tête de la structure en charge des femmes, c'est d'abord le dynamisme des femmes guinéennes en général, à l'instar des femmes africaines bien sûr. Leur aptitude à l'entrepreneuriat féminin se développe de plus en plus, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Des jeunes femmes ont créé de grandes surfaces de commerce qui constituent un laboratoire d'initiation des filles, et principalement celles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, celles qui sont sorties de l'école, qui ont abandonné les formations pour raisons diverses, notamment les grossesses non désirées, la pauvreté des familles, le mariage précoce. Toute cette gamme de filles trouve refuge en termes de commerce dans les surfaces créées par les jeunes femmes. Aussi, de plus en plus, les filles évoluent dans la maçonnerie, dans la chaudronnerie, dans la mécanique, et même comme chauffeur de gros porteurs, des métiers traditionnellement réservés aux hommes. Ça n'avait pas l'habitude d'être observé en Guinée. Aussi, les jeunes filles développent des aptitudes de leadership. Aujourd'hui, la Guinée dispose d'un parlement des enfants, dont la présence a été toujours assurée par les jeunes filles depuis une dizaine d'années. Le club des jeunes filles leaders de Guinée, créées sur leur propre initiative, représentent le pays aujourd'hui à l'extérieur dans les rencontres internationales, et d'ailleurs au niveau national elles sont très connues, elles constituent une référence. Mais aussi les professionnels de la teinture représentent le pays dans les foires, les rencontres commerciales et internationales, comme des groupes professionnels qui évoluent dans l'entrepreneuriat féminin et qui forment suffisamment de filles pour qu'elles puissent préparer leur relève. Mais aussi, des organisations féminines s'organisent de plus en plus en fêtière pour accroître leur influence sur les décisions du pays.
Touré, vous avez notamment réalisé des formations sur les questions de genre et équité au plan syndical. Quels sont vos constats sur ce point et à qui s'adressent en particulier ces formations ?
À propos des formations sur les questions de genre et équité avec les syndicats, ces formations s'adressent essentiellement à l'ensemble des membres du syndicat. J'ai eu cette initiative quand j'ai appartenu à une centrale syndicale dirigée par une femme. Et là, je me suis dit que pour laisser beaucoup plus d'espace aux femmes, il faut que les hommes et les femmes constituant ces formations syndicales puissent s'approprier de la notion de droit des femmes et de la notion de genre équité. Ça m'a permis de faire des modules de formation appropriés pour ses membres.
Du point de vue politique, êtes-vous satisfaite des développements sur les questions paritaires au sein du gouvernement et autres institutions d'État ? Il y a eu une grosse déception sur la constitution du dernier gouvernement. Comment expliquez-vous ce revers politique concernant la promotion des femmes au poste nominatif en Guinée ?
Il y a une déception générale sur la constitution du dernier gouvernement, c'est vrai. On peut dire que personnellement, en tout cas, en ce qui me concerne, cet état de fait ne m'a pas étonné du tout. Les nominations en Guinée n'obéissent pas à un principe donné. Les modes de nomination ne se réfèrent pas aux directives des conventions relatives à la promotion des femmes, que ce soit en termes de quotas, que ce soit en termes de parité, et cela dans tous les domaines. Donc, par rapport à ce phénomène, nous avons organisé de nombreux plaidoyers, voire des lobbying, avec le Collège des femmes d'action d'alors pour l'obtention d'une loi sur la parité en Guinée. Malheureusement, nous n'avons obtenu qu'une pseudo-loi, parce que cette loi-là ne peut s'appliquer vraiment que sur des formations politiques à des postes électifs. Donc, c'est pas ce que nous voulons. Sinon, dans cette dynamique, nous avons fait, mon organisation avait fait une mobilisation inédite avec les autres organisations sociale. Nous avons fait un plaidoyer et c'était au temps du CNDD, le Comité national pour la démocratie et le développement. C'était en 2008 et nous avons demandé pourquoi les femmes ne figurent pas dans le CNDD. Il n'y a eu que des promesses. Donc la situation est loin d'être satisfaisante. Pour la présente transition, la présidente du consortium dont j'ai fait partie a fait une déclaration au sujet du nombre de femmes dans le gouvernement. Et jusqu'à présent, des déclarations sont faites justement par rapport à ce dernier gouvernement. Bon, la lutte continue, le combat continue. Peut-être qu'avec la mise en place du Conseil national des femmes de Guinée, les lignes vont bouger. On espère et le combat continue.
Marie Touré, vous avez d'ailleurs participé à des concertations sur la mise en place de cet éventuel futur Conseil national des femmes de Guinée. Pouvez-vous nous parler de cette initiative ?
Par rapport au Conseil national des femmes en préparation, je voudrais juste informer que depuis une quinzaine d'années, nous avons, à travers nos échanges d'expérience avec le COSEF du Sénégal, Conseil sénégalais des femmes, avec le Conseil malien des femmes, au Nigeria également. Après, nous avons sollicité auprès du gouvernement à l'époque la mise en place d'un Conseil guinéen des femmes à l'époque. On a fait les statuts, nous avons fait tous les plaidoyers, mais c'était responsable. On pensait que c'est pour créer un contrepoids pour le gouvernement. Donc, ce Conseil guinéen des femmes, malgré le financement que nous avons obtenu, n'a pas pu voir le jour. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, avec la toute nouvelle ministre, de remettre la création d'un Conseil national des femmes sur la table. Donc, nous nous réunissons autour de tout ça. Nous sommes en train de travailler sur les statuts et les règlements intérieurs, de travailler sur la mission d'un Conseil national des femmes dans notre pays. Et je pense que les prochaines consultations et concertations feront en sorte que nous puissions consolider les statuts et passer à la phase supérieure, c'est-à-dire organiser des ateliers de formation, notamment dans les régions, parce que nous voulons que toutes les femmes, même la plus éloignée des villages, puissent participer, avoir une certaine résonance du conseil de décision du Conseil national des femmes. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. Peut-être Dieu fera en sorte que la Guinée aussi, après près de 20 ans de combat, puisse obtenir vraiment un Conseil national des femmes. Quand toutes les femmes parlent d'une voix, nous aurons l'espoir et nous pensons que ça pourra nous permettre de faire avancer aussi bien dans le cadre des nominations que dans le cadre de la répartition des dividendes du pays et dans le cadre de la défense des droits des femmes. Même sur le plan juridique, nous aurons des propositions à faire.
Vous êtes directrice du projet Renforcement de l'influence des femmes pour une transition apaisée et inclusive en Guinée du consortium La Guinéenne en politique, présidé par Makalé Camara. Qu'en est-il de sa mise en œuvre ?
Par rapport au projet renforcement des capacités des femmes pour une transition apaisée et inclusive en Guinée, il avait pour objectif de préserver la paix durant la transition et de faire accroître le nombre de femmes dans les instances et les institutions nationales à tous les niveaux. Il nous a permis quand même d'organiser les femmes, de les constituer en antenne régionale, en antenne communale, en vue de porter la voix des femmes très haut et partout. On pourra donner la parole aux femmes, mais c'est surtout dans les zones rurales, dans les zones éloignées, où les femmes sont assez actives, mais elles n'ont pas d'opportunité de se hisser avec les conseils communautaires. Donc le besoin se fait sentir et nous avons dit qu'il faut amener le combat très loin dans les zones rurales. Donc là, on pourra effectivement à la longue assister à l'émergence des femmes candidates aux élections, quel que soit le niveau, des femmes candidates même à la présidentielle. En tout cas, c'est ça notre espoir et nous allons nous battre vraiment pour ça.
Marie Touré, consultante en genre et développement en Guinée, merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré à cet entretien avec Le Monde au Féminin de VOA Africa. Très bientôt.
Au revoir Nathalie, merci.
Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les femmes ne possèdent que 25% des terres en République démocratique du Congo, alors qu'elles représentent plus de 70% de la main-d'œuvre agricole. Une réforme foncière vise toutefois à promouvoir un accès équitable à la terre, en particulier pour les femmes et les jeunes. Et certaines initiatives tentent de renforcer l'interdiction des coutumes et usages qui restreignent l'accès des femmes à la terre. Mais l'intégration de la dimension genre dans les règles d'accès et de sécurisation des droits fonciers en milieu rural reste insuffisante, ce qui les expose davantage aux conflits fonciers. Sarah Ntamboué, coordonnatrice de Change Your World à Goma, dans le Nord Kivu, a travaillé dans le cadre de son ONG sur des questions de conflits fonciers dans les villages où les femmes et les filles sont les premières victimes d'injustices liées à la possession des terres.
Pour des champs à louer, c'est trop difficile de voir qu'il y a un contrat entre le propriétaire du champ et une femme. On a vu ce qui était très choquant dans d'autres villages, qu'il fallait même que ce soit le fils de la dame qui pourrait signer ces documents, que ce soit une femme. Donc les questions d'accès de terres aux femmes, on a vu que ce n'est pas seulement lié à l'autonomisation financière, parce que c'est au-delà de ça, parce que quand même une femme a ses moyens-là de louer un champ, certaines conditions qui est toujours la présence d'un homme, soit son fils, soit son beau-fils, et parfois elles perdent même la légitimité dans la gestion de ces champs. Ce que nous avons comme recommandation, c'est de renforcer la sensibilisation et plusieurs travaux sur le changement de mentalité. Jadis, il y avait certaines règles coutumières, mais le temps a changé, les défis sont plus les mêmes. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a plusieurs femmes qui font des champs que les hommes. Nous avons vu que même dans la gestion, quand une femme gère un village ou une communauté, elle gère bien aussi les questions foncières. On a vu qu'il faut travailler vraiment sur le changement de mentalité, renforcer la collaboration avec les autorités coutumières et les femmes, avoir ces espaces-là de confiance entre les femmes et les leaders coutumiers, les leaders religieux, pour se faire entendre et prendre en compte ces considérations et revoir même certaines us et coutumes qui n'ont plus à exister parce que le temps a changé, les défis sont plus les mêmes. Adapter certaines résolutions aux défis actuels. Mais aussi, c'est qu'on a vu, qu'il y a des lois qui existaient, mais comme un peu partout ailleurs, c'est pas applicable à 100% s'il n'y a pas de mesures, non seulement de punition ou de conséquences pour ceux qui ne veulent pas appliquer, mais surtout de suivi et accompagné d'une information ou d'une sensibilisation de la participation et de l'appropriation communautaire. S'il y a des lois et qu'elles ne sont pas suffisamment vulgarisées, et même si elles sont vulgarisées, si certaines femmes ne savent pas lire ou comprendre le message, donc la vulgarisation doit être vraiment efficace, adaptée dans les langues des différents endroits où on identifie. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment avoir un programme plus large qui prendra en compte les sensibilisations quotidiennes, de révis de texte sur l'accès aux terres.
C'était Sarah Ntamboué, coordonnatrice de Change Your World à Goma, dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Le projet de filets sociaux et services de base permet d'améliorer le quotidien des populations indigentes. Le transfert de fonds aux ménages les plus démunis leur permet des activités génératrices de revenus. Plus de 39 milliards de francs CFA ont été injectés dans le projet. Les détails avec Kossi Wusu Alomé.
Depuis quelques années, Boubacar manquait de moyens pour faire de l'élevage afin de subvenir aux besoins de sa famille. Une subvention du projet de filets sociaux et des services de base du gouvernement togolais lui a permis de réaliser son rêve.
Vraiment, ça m'a permis à aider mes enfants à aller à l'école. Ça m'a permis aussi à soigner mes enfants.
L'un des axes du projet FSB concerne un meilleur accès des communautés et des ménages les plus pauvres aux filets sociaux. Dans la commune Ouest, dans la région des savanes, dans le nord du pays, le maire Moali Boukari a pu constater l'impact positif du projet sur la vie de ses administrés.
Je cite toujours l'exemple de cette femme-là qui, après avoir reçu 100 000 francs de transfert, s'est lancée dans l'agriculture. Elle nous a dit qu'avec la récolte de cette première année, elle a pu épargner 200 000 francs.
Mazalo Katanga est la directrice générale de l'Agence nationale d'appui au développement à la base qui met en œuvre le projet.
Aujourd'hui, on peut s'applaudir. Nous avons commencé avec 61 000 ménages pour le projet par an, puis après 125 000 ménages pour la phase additionnelle. Donc, des ménages ont reçu 120 000 francs avec des bonus, d'autres ont reçu dans la phase additionnelle 90 000 francs avec 100 000 francs de bonus pour réaliser les activités génératives de revenus. Nous avons commencé avec un accompagnement uniquement du milieu rural, mais la phase additionnelle a connu l'implication du Grand Lomé.
La Banque mondiale, qui a participé au financement à hauteur de 28,2 milliards de francs CFA, est satisfaite des résultats obtenus. Raphaëlla Béatrice Carlen, de la représentation de la Banque mondiale au Togo.
Notre satisfaction d'avoir accompagné le gouvernement et d'avoir répondu avec succès aux attentes des communautés bénéficiaires ne nous empêche pas de reconnaître que la réduction de l'extrême pauvreté et de la vulnérabilité doit se poursuivre tout en tirant des leçons de l'expérience du projet pour bâtir un système solide et durable de protection sociale.
Myriam Doussou d'Almeida, la ministre chargée du développement à la base, apprécie.
Grâce à ce partenariat, nous avons pu apporter des améliorations significatives dans la vie des populations les plus vulnérables de notre pays. Grâce à ces initiatives ciblées, le gouvernement parvient à combattre la pauvreté de manière proactive et à améliorer la qualité de vie des citoyens.
Le projet FSB s'achève à la fin de cette année. Un nouveau projet dénommé Assistance sociale transformatrice pour la résilience va prendre le relais en vue de sortir environ 1,5 million de personnes de la pauvreté. Kossi Oussou, Lomé pour VOA Afrique.
Le 2 juin 2024, les Mexicains ont élu pour la première fois une femme à la tête de leur pays, Claudia Sheinbaum, de la gauche au pouvoir. Probablement pour la première fois aussi dans le monde, les deux principaux candidats étaient des femmes. L'ex-maire de Mexico a obtenu plus de 58% des voix. Madame Sheinbaum devra relever le défi du narcotrafic et de la violence des cartels. Le Mexique enregistre environ 30 000 homicides par an. Voici un extrait de la déclaration de Claudia Sheinbaum après avoir été élue.
C'est la reconnaissance par le peuple mexicain de notre projet national. Et comme je l'ai dit à d'autres occasions, je n'arrive pas seule. Nous arrivons toutes avec nos héroïnes qui nous ont donné notre patrie, avec nos ancêtres, nos mères, nos filles et nos petites filles. Nous allons élargir l'accès du peuple mexicain aux droits, à l'éducation, à la santé, au logement et à la culture. Notre politique en matière de sécurité et de justice sera axée sur les causes et l'impunité zéro.
Chères auditrices, chers auditeurs, c'est ici que se referme le monde au féminin. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête!